Bonjour, chères auditrices. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Pour 2024, j'ai une grande surprise à t'annoncer. J'organise une masterclass le samedi 20 janvier. Note cette date dans ton agenda. J'aurai le plaisir de t'inviter en ligne sur le thème captivant de l'harmonie familiale et du bonheur partagé. Je t'y donnerai des clés concrètes pour créer une atmosphère de bonheur et d'harmonie au sein de ta famille, avec tes enfants bien sûr, mais aussi dans ton couple et avec toi-même. Ce sera l'occasion idéale de découvrir les principes fondamentaux qui favorisent enfin le bonheur en famille. Je te donnerai quelques conseils pratiques, des stratégies éprouvées, des anecdotes déjà vécues en coaching avec les mamans que j'accompagne, et tu pourras avec tout ça créer des liens plus solides et durables avec tous ceux que tu aimes. C'est l'occasion rêvée de partir du bon pied dès cette année 2024 avec des clés précieuses vers un bonheur retrouvé. Le lien est dans la bio dès à présent. Les places sont limitées et je te souhaite maintenant une très bonne écoute de ton épisode. À bientôt. Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue. Quand le comportement de notre enfant nous challenge, on a des fois la phrase de « il nous cherche, il nous provoque, il a un comportement de caprice, de bêtise ». Donc ça, c'est peut-être des termes que vous utilisez ou que vous entendez autour de vous. Et l'éducation traditionnelle fait la part belle au comportement d'un enfant comme s'il fallait le dresser, comme s'il fallait le faire plier à une soumission, le dominer, le faire rentrer dans un moule et dans un cadre. Ça a marché pendant des siècles et des siècles. C'est quelque chose qu'on peut continuer à faire, mais c'est quelque chose qui, à long terme, n'est pas très efficace. Pourquoi c'est pas très efficace? Parce que l'enfant s'écrase, l'enfant a peur de nos réactions, l'enfant va faire des choses en douce, l'enfant va se cacher pour faire ses bêtises, puisque nous, on n'accepte pas ces comportements-là qu'on qualifie de bêtises ou de caprices, et il va développer à côté de notre relation des choses qui seront peut-être même plus dangereuses que si on comprenait ces comportements initiaux. Tout comportement de votre enfant, que vous ayez un enfant de 2 ans, de 8 ans, de 16 ans, a une logique et a une raison d'être. Ce qui est difficile pour nous en tant que parents, c'est de prendre le temps de descendre à leur hauteur et de se dire « pourquoi mon enfant a dit ça, a fait ça, a décidé ça ?» Dans son schéma à lui, dans sa petite tête à lui, quelle est la logique pour qu'il ait choisi ce comportement, cette réponse, cette phrase ? La première piste, c'est que son développement moteur, son développement intellectuel et son développement sensoriel, émotionnel, n'est pas aussi développé que nous. Nous, on est adultes. Nous, on est capable d'avoir une large palette de réactions, une large palette de connaissances de nous, et on connaît le monde extérieur avec beaucoup plus de filtres que notre petit enfant. Ça veut dire que l'émotion de notre enfant de 2 ans, l'émotion de notre enfant de 8 ans, l'émotion de notre ado de 16 ans, va être différente de ce que nous, en tant qu'adultes, on va ressentir comme émotion. Les deux seront des flammes, les deux seront dans des cheminées des émotions, les deux seront logiques et les deux seront cohérentes. Mais si je suis maman, si je suis éducatrice, si je suis thérapeute, comment je vais lire l'émotion de mon enfant, de mon élève, de mon client, sans être trop sur mon émotion à moi? Donc la première chose qu'on va apprendre des émotions, du terme émotion, c'est que vous, individuellement, vous avez là, dans votre cheminée des émotions, des flammes que je ne peux pas voir, que je ne peux pas comprendre si vous ne me donnez pas les clés. Et ces flammes ne sont pas forcément visibles par votre mari, votre femme, votre enfant, votre belle-mère ou votre patron. Ce que vous allez faire de ces flammes vous appartient. Vous êtes complètement libre d'utiliser cette connaissance de vos flammes ou pas. Vous pouvez très bien mettre un couvercle dessus et vous dire « je ne veux pas savoir ce que je ressens à l'intérieur, j'ai des choses à agir, j'ai des choses à faire. Je vais partir dans ma to-do list, je vais être dans une énergie très yang d'action, de faire, de produire, de productivité, de consommation. » Vraiment la partie, vous savez, que la société réclame. Soit le bon soldat, agit, fait, consomme. Et il y a toute une autre dimension, une dimension un peu plus contemplative, une dimension un peu plus calme, un peu plus intérieure, parfois un peu plus spirituelle ou religieuse, c'est vous qui allez mettre ça comme vous voulez, où ce qui se passe à l'intérieur est complètement invisible pour les gens. Quand je vous apprends à utiliser votre cheminée des émotions, quand je vous détaille son fonctionnement, il y a trois parties dans votre cheminée, il y a le foyer, il y a les réactions que vous allez avoir à l'extérieur, et puis il y a tout votre système de pensée qui joue avec vos émotions. La question des émotions, quand nous, on est avec des grosses flammes, on peut croire qu'à l'extérieur, ça ne se voit pas, mais il y a des gens qui sont habitués à détecter les émotions. Il y a des gens qui, intuitivement, sentent si vous êtes bien ou si vous n'êtes pas bien. Donc, ce qu'on peut aussi apprendre d'une émotion, c'est qu'elle révèle un fonctionnement qui se voit moins à l'extérieur, mais qui a tout un sens intérieur dans ce qu'on se raconte, dans ce qu'on voudrait, dans nos expériences de vie, dans notre passé, dans nos cicatrices aussi. Parce que mes émotions de l'année dernière, je les ai peut-être bien traversées, elles sont peut-être toutes deuillées. Dans mon jargon, deuiller une émotion, c'est l'avoir comprise, l'avoir traversée, l'avoir acceptée et en avoir fait une expérience et non pas une blessure. En avoir fait un petit pas d'action et de connaissance de moi au lieu d'une cicatrice. Maintenant, ce que vous mettez derrière votre émotion, c'est vous qui allez le choisir à nouveau. Vous êtes complètement libre d'aller voir chaque flamme individuellement, ce qu'elle vous raconte, pourquoi vous avez peur, de quoi vous avez peur. Est-ce que vous avez besoin de clarté? Est-ce que vous avez besoin de compréhension? Est-ce que vous avez besoin de connexion? Est-ce que vous avez besoin d'information ou de relation? N'importe laquelle de vos émotions va vous donner des informations sur le besoin actuel qui clignote sur votre rayure d'arc-en-ciel de besoin. Petit refresh pour ceux qui ne connaissent pas l'arc-en-ciel de besoin, vous avez un panel de besoins qui est à peu près maintenant de 166 besoins sur ma liste, qui concerne aussi bien des besoins de survie, donc physiologiques, qui va être la rayure rouge de l'arc-en-ciel, les besoins relationnels, tout ce qui est en contact avec l'amour, l'amitié, le respect, la bienveillance, l'écoute, l'empathie. Vous avez des besoins autour de votre identité, la connaissance de vous, la puissance personnelle, la réalisation de soi, la sensorialité. Vous avez des besoins autour de votre rayure verte d'autonomie, d'indépendance, de liberté. Est-ce que vous avez le choix? Est-ce que vous pouvez tester des choses et en tirer des conclusions? Est-ce que vous avez une latitude d'action dans le monde extérieur? Ensuite, il y a la rayure bleue autour du sens, de la compréhension, du sens qu'on met à la vie, de la célébration. C'est là où aussi on trouve les deuils, aller chercher des raisons à ce qui nous arrive, toute la rayure de sens, la rayure d'expression, la rayure indigo, qui est aussi la rayure de créativité, de co-création, de collaboration. Donc, dans toutes ces rayures, la dernière, c'est la rayure de détente, pardon, je ne vous ai pas cité la dernière. Donc, de détente, ça peut être détente énergétique, donc défi, challenge, renouveau, ressourcement, ou alors détente plutôt calme, paix, harmonie, beauté. Et vous voyez que rien qu'avec ces sept rayures, on n'a pas forcément été chercher ce qui clignotait aujourd'hui dans notre arc-en-ciel. On n'a pas été chercher si aujourd'hui on avait particulièrement besoin de silence ou alors de défi. Si on avait particulièrement besoin d'écoute ou plutôt de contribuer et de se mettre à la disposition de quelqu'un d'autre. Chacune de vos journées va pouvoir se constituer sur mesure en fonction de ce que vous décelez sur votre arc-en-ciel de besoin. Moi-même, je peux le lundi matin avoir un grand besoin de coopération, de co-création, de collaboration, d'aller dans un réseau d'entrepreneurs, de créer un projet à plusieurs, d'organiser une fête. Et ce besoin-là sera nourri sur ma rayure indigo. Et puis d'autres jours, je vais avoir besoin de me replier, d'être plus dans le calme, dans l'introspection, d'aller voir ce que je ressens, d'être dans la paix et dans l'harmonie, mais plutôt moi avec moi. Chacune de vos rayures vont résonner différemment et l'état de vos rayures va induire quelle est la flamme qui va popper dans votre cheminée des émotions. Ce que je vais apprendre quand je vais plonger dans cette flamme, c'est de savoir comment je me sens, pourquoi je me sens comme ça, qu'est-ce qui clignotait comme besoin et qui m'a fait me sentir comme ça, pour ensuite, vous vous doutez, hein, le but c'est quand même d'en sortir de cette émotion désagréable. Si vous avez une émotion très agréable, vous allez vouloir la maintenir, l'alimenter, la garder, la sauvegarder. Ce sera l'objet, par exemple, de l'épisode 75, où je parle des flammes agréables. Mais, et en général, on vient plutôt me voir pour les émotions désagréables, quand on vit une émotion désagréable, quand on a dans notre cheminée des flammes de doute, d'impuissance, de culpabilité, de pas savoir exactement si je dois faire ça ou ça, d'hésitation, ou alors de colère, de frustration. Pourquoi est-ce que les gens font ça? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas répondu à mon appel? Pourquoi ceci? C'est à relier avec ou notre besoin de sens, ou notre besoin de résultat, ou notre besoin d'écoute. Et vous voyez que ça redistribue à nouveau sur chacune de nos rayures ce qu'on peut ressentir. Mais si je ne fais pas l'effort d'aller voir d'où vient mon émotion, si je ne fais pas l'effort de chercher quel est le besoin qui a résonné avec ce que je vivais, ce que j'ai réagi, ce que j'ai proposé ou ce que j'ai vécu, est-ce que ça se répète cette flamme? Est-ce que vous la connaissez cette émotion? Est-ce que vous l'avez déjà vue tellement de fois qu'elle vous est très familière et du coup peut-être très agaçante? Vous savez, le truc que votre voisin de bureau fait toute la journée et qui vous rend dingue. Mais allons voir pourquoi ça vous rend dingue. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez besoin de silence? Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place pour avoir du silence? Peut-être un casque anti-bruit, peut-être vous isoler, peut-être vous mettre de la musique avec des bruits blancs. Il y a d'autres stratégies à trouver. Vous pouvez être très créatif sur votre éventail de stratégies. L'éventail de stratégies, c'est aussi un outil des petits plus zen que vous allez retrouver dans l'épisode 108. Toutes ces mises en place dépendent uniquement de vous. Je peux apprendre plein de choses de chacune de mes flammes d'émotion pour peu que je plonge dans ma cheminée. Je peux, certains jours, ne pas avoir envie de plonger dans ma cheminée et d'aller voir les flammes une par une. Je peux avoir peur de ce que je vais y trouver. Et si vous discutez avec des amis qui sont passés à l'action, qui ont été voir un thérapeute, qui ont été voir un psychanalyste, un psychothérapeute, eux, à un moment, ils ont sûrement eu ces craintes de ce qu'ils allaient trouver caché derrière vos émotions. Certaines de vos émotions cachent des belles choses, des choses sur vous, des choses de votre expérience, de ce que vous avez réussi, de vos compétences. Et puis, certaines émotions vous parlent aussi de ce que vous n'avez pas digéré. Donc, ça peut être plein de thèmes différents. Hein. Ça peut être une expérience professionnelle qui s'est très mal finie, par exemple un épuisement professionnel. Ça peut être une relation associative où il y a eu une sensation de trahison, quelque chose d'inégal qui était très vertical. Vous vous êtes senti peut-être écrasé, utilisé. Toutes ces expériences font partie de notre vie, de notre vécu. Et parfois, certaines servent de braise dans notre cheminée. Et il ne suffit que d'un tout petit détail extérieur, un tout petit déclencheur pour raviver cette sensation désagréable, cette émotion désagréable qui ensuite va nous maintenir dans une humeur un peu maussade, va nous maintenir dans une énergie un peu pourrie, soyons clairs. Si je rumine ce truc encore et encore, cette rupture, cette démission ou cette mise à la porte, etc., je ne peux pas bien avancer dans mes nouveaux projets. Je ne peux pas bien avancer dans ce que je veux installer dans ma vie, que ce soit pro ou perso. Donc, ce que m'apprend mon émotion d'aujourd'hui, elle m'en apprend aussi sur l'état de digestion de toutes les expériences que j'ai vécues. Donc là, moi, j'ai 40 ans d'expérience à scanner, hein, je ne me rappelle pas des 5 premières années, mais ces 40 ans, je peux les revisiter quand je veux. Je peux aller voir ce que je me raconte, les perceptions que j'ai encore sur ces émotions-là. Parfois, on a des souvenirs qui sont très différents de ceux que notre frère a vécu ou notre sœur a vécu. Pourtant, c'était le même événement. Et si cet événement qu'on a vécu ensemble nous a laissé pour l'un aucune braise et pour l'autre une ou deux braises de tristesse, de doute, est-ce qu'on m'aime à la hauteur de ce que je suis? Est-ce qu'on me connaît vraiment? Est-ce qu'on m'utilise? Donc, on est à mi-chemin entre l'émotion qui est restée coincée et à la fois les choses que je me raconte sur ce que les gens font autour de moi. Parce qu'elle est quand même liée avec ces deux choses, notre émotion actuelle. Là, l'émotion que vous avez dans votre cheminée, ça peut être une énergie plutôt positive, de joie, de sérénité. Vous avez bouclé votre dossier ce matin, ça s'est bien passé avec votre client, vous avez un petit rendez-vous ce soir avec votre conjoint. Il peut y avoir des belles flammes. Mais à côté de ça, est-ce qu'il y a une flamme qui vous embête là tout de suite, dans votre cheminée actuellement, et sur laquelle on peut faire deux petits pas pour mieux comprendre ce qu'elle a à nous dire? Que va vous dire cette petite flamme dans votre cheminée que vous n'avez pas encore trouvée? Et j'y vais toujours avec beaucoup de curiosité, j'y vais avec une démarche de journaliste, parce que je ne sais pas ce que je vais trouver. Quand on fait un binôme empathique avec mes collègues de communication non violente, on arrive chacune avec une situation où on s'est senti mal à l'aise. Donc, quand on rentre dans la séance, on sait qu'on va démêler, qu'on va décortiquer, qu'on va démêler la pelote de la situation inconfortable, mais on ne sait pas du tout vers quelle émotion cachée dans l'émotion ou vers quel besoin caché derrière un autre besoin on va trouver. Moi, je trouve ça fabuleux dans mon métier, c'est que les clientes qui viennent en séance individuelle ou qui commencent un des parcours en collectif arrive pour une raison qui n'est parfois plus du tout la même raison un mois après ou deux séances après ou trois mois après. Parce qu'elles ont appris à voir ce qui se cachait derrière la première émotion. Imaginons que vous avez beaucoup de colère en vous et que plusieurs fois par jour vous êtes submergé par une flamme de colère, d'agacement, que vous voulez crier, que vous voulez claquer la portière, que vous donnez des jurons en voiture, etc. Cette colère, elle cache peut-être une peur. Et ça, on le sait pas. Ou cette colère, elle cache peut-être une tristesse de pas arriver à mettre en place ce que vous voulez mettre en place. Ou alors, cette colère, elle peut cacher aussi une impuissance, mais une impuissance qu'on attribuerait à quelqu'un d'autre, au lieu de prendre la pleine responsabilité de cette impuissance et de cette déception. Donc derrière une flamme de colère, c'est un exemple, hein, mais souvent on vient me voir aussi parce qu'on n'arrive pas à bien comprendre et réguler nos émotions liées à la colère, il y a souvent derrière la colère cachée une autre flamme, une autre émotion. Et à nouveau, cette nouvelle flamme, on peut aller la scanner et voir ce qu'elle nous raconte. Si je vous raconte tout ça, c'est que ça a un intérêt certain pour nos enfants ensuite. Ce que je vais apprendre sur le fonctionnement de mes émotions en tant qu'adulte, je vais pouvoir plus facilement, avec plus de fluidité, le vivre, le verbaliser et le modéliser pour mes enfants. Si j'arrive à comprendre ce qui me met en colère, pourquoi ça me met en colère, qu'est-ce que je peux faire pour reformuler ça autrement ou pour agir différemment pour que ma colère ne me domine pas, pour que la colère ne soit pas le dragon qui sort de moi, je vais ensuite pouvoir mieux comprendre quand mon enfant se roule par terre et crie, quand mon enfant hurle, tape la porte, balance une chaise, dit « t'es moche, t'es méchante, je veux plus te parler, je t'aime plus ». Ça, si on n'est pas préparé, on peut réagir de façon inappropriée avec l'émotion de notre enfant. Que vous me découvriez aujourd'hui ou que vous me connaissiez depuis longtemps, je fais très souvent ce lien entre plus je connais mon fonctionnement de cheminée à moi, en tant qu'adulte, en tant que maman, en tant que partenaire amoureuse ou en tant que professionnelle de la petite enfance, plus en face, sur l'autre colline, sur l'autre montagne, la personne va pouvoir se déposer, dire, expliciter ce qui se passe pour elle. Parce que je ne vais plus le prendre personnellement, je vais bien dissocier ce qui se passe pour moi de ce qui se passe pour elle. Et deuxième avantage, c'est que je vais pouvoir l'entendre et je vais pouvoir à mon tour l'aider, la guider, la soutenir ou juste être une écoute empathique pour ce qu'elle vit, elle, cette personne. Et cette personne, vous pouvez remplacer par votre enfant. Vous pouvez remplacer par votre mari, votre femme. On a beaucoup de mal à pouvoir écouter avec empathie quelqu'un d'autre si nous, on n'arrive pas à nous écouter nous-mêmes avec empathie. L'empathie, c'est pas se mettre à la place de celui qui souffre. L'empathie, c'est pas prendre en charge la douleur, la souffrance et les émotions de l'autre. L'empathie, c'est être entre les deux collines et se dire sur ma colline, dans ma cheminée, avec mon arc-en-ciel de besoins, mes croyances et mes projets, voilà ce qui se passe. Et sur l'autre colline, dans la cheminée de mon enfant, avec ses besoins à lui, avec ses projets, avec sa petite expérience qui peut être aussi de l'immaturité intellectuelle et émotionnelle, comment je vais pouvoir l'aider, lui, elle, si je ne fais pas la part des choses entre ce qui m'appartient moi, ce qui est de ma responsabilité émotionnelle, et ce qui est attribué de son côté. Et je suis tombée dans ces trous très souvent. Donc je ne vais pas vous dire que c'est facile, que c'est accessible et que ça se fait juste en l'ayant décidé ou juste en regardant une masterclass. Bien sûr que non. Il y a plein de moments dans ma vie où j'ai voulu prendre en charge l'émotion de quelqu'un d'autre alors que je n'avais même pas été voir en moi quel était mon état émotionnel. Comment je peux soutenir quelqu'un à l'extérieur de moi si je ne sais pas moi-même comment ça me fait réagir, comment ça m'impacte et comment ça résonne en moi. Et une partie des formations des thérapeutes est aussi de mettre une saine distance dans l'alliance thérapeutique qu'on a avec notre client, avec notre patient. Une maman qui vient en séance me déposer sa douleur et sa souffrance, une maman qui vient pleurer de sa situation parce qu'on a le droit de pleurer, parce que c'est bien de décharger son émotion, parce que pleurer, c'est une des stratégies possibles pour faire sortir l'intensité de cette flamme. Et parfois, en séance, je peux être contaminée par l'émotion de ma cliente, de cette maman, parce que ça résonne avec quelque chose que j'ai vécu. Et là, je suis, moi, en train de faire le travail de démêler ce qui est de mon émotion, de l'émotion de la personne que j'accompagne, ce qui est de mon ressenti et de mes besoins et des ressentis et des besoins de la personne. On ne peut pas amalgamer ce qu'on reçoit comme émotion de l'extérieur si on veut pouvoir soutenir quelqu'un. Et je vous pose ça là, c'est un gros défi. C'est vraiment un gros enjeu. Quand on veut être disponible entièrement pour écouter notre personne en face de nous, nous, ça nous demande de la clarté, de la conscience, de la présence pour ne pas mélanger ce qui est sur notre colline à nous, personnel et professionnel, de ce qui se passe sur la colline de notre client, patient, maman qu'on accompagne. Si vous, vous n'avez jamais vécu ce moment, cette alliance thérapeutique, ça va peut-être être un peu difficile de le comprendre, cette connaissance de soi, qu'on soit parent ou pas d'ailleurs, puisque j'ai des mamans qui me suivent, mais j'ai aussi des personnes qui n'ont pas encore d'enfants, qui ne savent pas si elles veulent des enfants, qui se disent « Ah ouais, c'est quand même très intéressant de faire ce travail avant d'être parent. » Et je ne peux que aller dans ce sens-là. Si j'avais fait tout ce travail avant d'être enseignante, avant d'être maman, j'aurais vécu une grossesse différente, j'aurais accompagné de manière différente les personnes, les parents d'élèves, même mes collègues. Mais on a à retravailler, si on le souhaite, c'est pas une obligation, mais à revisiter tout ce qu'on se raconte sur l'éducation, tout ce qu'on se raconte sur la colère, la tristesse. Je donne souvent cet exemple-là, notamment dans l'épisode 74, qui retravaille l'héritage qu'on a reçu, l'héritage d'éducation qu'on a reçu. Si on vous a dit toute votre jeunesse, arrête de chouiner, c'est pas grave, c'est rien, il n'y a pas besoin de pleurer pour ça. En tant qu'enfant, vous n'avez pas pu apprendre quelque chose de votre émotion à l'époque, puisqu'on vous a laissé entendre que cette émotion n'était pas utile, importante, voire légitime. La posture d'un parent peut être, même si c'est difficile, de valider l'émotion de l'enfant. Tu as l'air triste. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Je te vois en train de pleurer. Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu as mal? Est-ce que tu es fâché? Est-ce que tu es déçu? Est-ce que tu es en colère? L'éducation émotionnelle qu'on est en train de faire avec nos petits élèves ou nos enfants à nous, ou même votre filleule et votre nièce, va dépendre de ce que vous savez comme accueil de vos propres émotions à vous. Et si vous observez autour de vous, vous avez sans doute des adultes qui ne savent tellement pas entendre leurs propres émotions d'adultes qu'ils ne vont pas pouvoir écouter celles d'un autre adulte et qu'ils ne vont pas pouvoir écouter celles d'un enfant. D'autant que la société nous explique très souvent que les émotions des enfants, il faudrait les cadrer, il faudrait les dominer, il faudrait les réguler. Je vous invite à voir si vraiment vous pensez que les émotions de nos enfants sont des choses à régler, sont des choses à cadrer. Si on veut que nos enfants un jour soient autonomes émotionnellement, puissent se gérer, prendre des décisions à leur service, lier des contacts intéressants, des connexions professionnelles, des connexions associatives, si on leur donnait des clés pour mieux connaître leurs émotions, ils pourraient faire ces choix-là plus facilement. Donc en tant que parent, en tant qu'éducateur, en tant qu'enseignant, en tant même que responsable de crèche ou de périscolaire, une de nos missions maintenant, hein, je vous dis ça après 22 ans d'expérience, ce serait de valider chacune des émotions des enfants qui sont autour de nous. Mais qu'est-ce que c'est difficile ? Il y a encore des gens qui découvrent mon compte, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok, et qui m'envoient un message en disant « Non, mais moi, je veux juste que mon enfant, il m'obéisse. C'est super intéressant. Je suis habituée d'entendre « Je veux que mon enfant m'obéisse. » Mais qu'est-ce que ça dit de nous si on veut juste que nos enfants obéissent ? Et qu'est-ce que ça dit de l'avenir qu'on prépare à nos enfants ? Est-ce que réellement, vous avez envie que vos enfants obéissent sans avoir de sens critique ? Que vos enfants, plus tard, se soumettent à des gens qui seraient toxiques pour eux ? Est-ce que vous voulez vraiment que vos enfants subissent les décisions arbitraires d'un gouvernement, ministre, patron, beau-père ? On ne va pas contrôler ce que nos enfants vont vivre plus tard. On ne sera peut-être même plus là pour le voir. Mais dans notre mission d'éducation, dans notre mission d'accompagnement, que ce soit nos enfants ou pas, est-ce qu'on pourrait leur donner des clés pour qu'ils prennent des décisions au plus près de ce qu'ils ressentent, au plus près de ce qu'ils ont envie, tout en étant dans le respect de la citoyenneté et de la collectivité. Parce qu'on me donne souvent comme argument, oui, mais si on écoute trop les enfants, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. C'est un raccourci, c'est un cliché de l'éducation positive. C'est un raccourci vers le laxisme, vers la parentalité permissive. Évidemment, quand on s'intéresse à ces sujets, après, on arrive à démêler à nouveau les termes, les notions, les outils. Il y a à trier, il y a à boire et à manger dans l'éducation positive. Et les médias restent souvent en surface. Mais ce que vous voulez pour vos enfants à long terme, est-ce que ça pourrait être intéressant de le reconsidérer que là, si je dis à mon enfant de se taire, de m'obéir, qu'il n'a pas de droit de pleurer, qu'il n'a pas à se mettre en colère, est-ce que ça travaille pour son avenir plus tard d'autonomie personnelle, individuelle, sentimentale et professionnelle? Est-ce que vous voyez la dissonance entre ce qu'on a fait pendant 40 ans d'éducation et ce qu'on commence à mettre en place timidement? Moi, j'ai fini par en avoir marre de voir ça dans l'éducation nationale, donc je suis partie. Et dans certains pays, ils y arrivent beaucoup mieux que nous. En Suède, en Norvège, au Danemark, ils mettent dès la maternelle en place des séances autour de l'écoute de l'autre, l'empathie. Qu'est-ce que vit mon camarade de classe? Est-ce que je peux entendre ces ressentis sans le prendre personnellement? Et est-ce que je peux entendre mes ressentis, moi, sans les faire porter à ma copine de classe ou à la maîtresse, ou dire c'est la faute du prof si, c'est la faute de la directrice si? Et autour de vous, vous avez sans doute des adultes qui reportent systématiquement leurs émotions sur quelqu'un d'autre qu'eux. Il y a encore des adultes qui font facilement ce raccourci « je me sens mal, c'est à cause de toi ». Non. Si je me sens mal, c'est uniquement parce que j'avais pas mis de conscience et de clarté sur les besoins qui clignotaient dans mon arc-en-ciel de besoins, que je n'avais pas mis en place des stratégies pertinentes pour me sentir mieux, pour réguler mes flammes désagréables ou pour augmenter mes flammes agréables. Et au lieu de faire ce travail intérieur qui est dur, qui est pénible, qui n'est pas confortable au début, ma première cliente, elle m'a dit « j'ai mis 6 mois avant de mieux comprendre tout ça ». Donc, on peut vous vendre un accompagnement en 3 séances et vous faire payer super cher. Mais c'est la pratique qui va vous aider à ne plus considérer que votre émotion, vous allez la mettre sur le dos de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas à cause de votre mari que vous vous sentez comme ça. Ce n'est pas à cause de votre enfant que vous vous sentez comme ça. Et l'émotion va nous apprendre ça. Chacune de mes émotions m'apprend à quel point je n'ai pas vu la responsabilité que j'avais à tel moment, dans telle décision, que ma stratégie n'était pas optimale dans tel choix, dans tel embranchement. Hein, parce que des fois, on est à un carrefour, on doit prendre une décision. Et oui, on va peut-être le regretter. Mais si on fait rien, on peut aussi le regretter. Donc, on va pas éviter les émotions désagréables dans notre vie. On va pas pouvoir les éviter à nos enfants non plus. Mais ce que je peux faire dès aujourd'hui, c'est voir à quel point, si je mets un couvercle sur mon émotion, j'aurai encore moins de facilité à aider mon enfant, mon conjoint, ma collègue de travail, à comprendre les siennes, à entendre les siennes et à arrêter de me les balancer sur moi. Si vous avez autour de vous un enfant de 4-5 ans, il est normal qu'à 4-5 ans, il vous attribue sa crise et sa colère. « T'es méchante, c'est à cause de toi, je veux plus te parler, tu m'écoutes pas. » À son âge d'immaturité cérébrale, c'est normal qu'un enfant vous nomme responsable de son état émotionnel, de sa flamme dans sa cheminée à lui. Mais nous, en tant qu'adultes, est-ce qu'on peut avoir l'humilité de reconnaître que parfois on le fait encore? Parfois on va dire c'est à cause de lui si, 3 petits points. Je me sens mal à cause de, 3 petits points. Et d'attribuer à nouveau l'origine, la causalité de mon émotion à une personne. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu une situation qui vous a déclenché. Évidemment qu'il y a une situation qui vous a mis dans cet état. Mais c'est l'ensemble de la situation qui a décortiqué. Je vais apprendre de mon émotion si je plonge dans l'intensité de ce que cette flamme a à me dire sur moi. Plus je suis en colère, plus je vais pouvoir creuser sur ma notion de justice, ma notion de norme, pourquoi je me raconte que ça aurait pas dû se passer comme ça, pourquoi est-ce que je m'attribue des désagréments et des conséquences négatives alors que ça aurait pu se passer autrement. Est-ce que j'avais tellement besoin de repères, de contrôles et de résultats que j'en ai oublié d'avoir conscience de tel ou tel élément qui ont été dans l'impermanence du monde extérieur? Si on prend un exemple très facile, vous avez un entretien d'embauche à 10 heures. Le train n'arrive pas. Le chauffeur de bus vous renverse son café sur vous. Ce sont des éléments extérieurs. Je peux râler, hurler, être en colère, porter plainte. Bien sûr, je peux faire tout ça. Mais peut-être que ce que je voulais vraiment intérieurement, c'est arriver avant 10 heures pour donner une bonne image de moi, pour avoir ce travail qui me permettra d'avoir une sécurité financière, de partir en vacances cet été, de m'accomplir personnellement. Voilà toutes les intentions que j'avais en voulant arriver à l'heure à 10 heures. Et je n'en avais peut-être pas pris conscience de l'importance d'arriver à l'heure pour pouvoir mettre en place, en amont, toutes les actions et micro-actions qui m'auraient permis, sans gérer l'ingérable, hein, parce qu'il peut toujours y avoir un tremblement de terre, malheureusement, mais qui auraient mis de mon côté toutes les chances pour que je sois à l'heure à ce rendez-vous, au lieu d'attribuer mon retard au chauffeur de train, au chauffeur de bus, etc. Ça ne nous empêchera pas d'être en colère. Hein. On va garder cette colère. Je veux juste qu'on la réattribue à quelque chose d'autre que les gens autour de nous. Si je suis en colère, c'est parce que quelque chose dans ma perception du monde n'était pas complète. Si je suis en colère, c'est que j'avais pas suffisamment mis de clarté sur les autres options que j'avais sur mon éventail de stratégies. Si je suis en colère, c'est que je me suis défaussée sur quelqu'un d'autre au lieu de prendre ma responsabilité dans ce projet. Et ça m'arrive encore, notamment le week-end, parce que quand je dis « je vais plutôt travailler cet après-midi » et qu'au milieu de l'après-midi, j'ai ma fille qui débarque, je peux avoir ma flamme de colère qui monte en lui attribuant le fait de me déranger dans mon travail alors que moi, je voulais avancer. Mais c'est à moi de me réattribuer cette émotion. Je suis en colère parce que j'ai besoin de calme pour me concentrer. Ce n'est pas la faute de ma fille qui veut me voir, me parler, partager, contribuer. Si je prenais une éducation classique, je dirais à ma fille « arrête de me déranger, ça suffit, va dans ta chambre, tais-toi ». Donc j'attribuerais ma colère à mon enfant. C'est faux. Le comportement de mon enfant a tout son sens quand je vais voir sur ses rayures à elle, sur ses besoins à elle, sur son émotion. Elle est dans le partage, elle est dans la discussion, elle est dans le dialogue, elle est dans la connexion. Tout ça est normal. Un enfant, c'est fait pour ça. Un enfant, c'est fait pour parler, pour jouer, pour s'exprimer. Mais nous, adultes, on est tellement dépassés par nos propres émotions, par notre manque de clarté sur les priorités parfois. On veut tout faire bien, et on déresponsabilise notre côté adulte en disant que c'est la faute de notre enfant, c'est la faute de notre patron, c'est la faute de notre voisin, c'est la faute de notre mari, etc. Donc quand je vois que j'ai mal organisé mon emploi du temps et que ma fille vient pendant que je suis en deep work, en montage d'épisodes ou en train de créer un article, je me reformule. Ça, c'est un des outils qu'on voit aussi pendant le parcours, à reformuler ce qui s'est vraiment passé dans la situation, reprendre la responsabilité de comment je me sens, puisque je me sens comme ça parce que j'avais besoin de. Donc, on va faire ce travail d'enquête. Et ensuite, on va se reformuler. Qu'est-ce que je peux faire différemment pour arrêter de croire que c'est la faute de ma fille, pour reprendre la pleine responsabilité de ma flamme et pour mettre en place des stratégies qui soient nouvelles, ou alors ancienne, ou même complètement inédite et créative, mais qui serait à mon service pour que j'évite de lui balancer ma flamme sur elle. Mon enfant n'a rien à voir dans l'émotion que je ressens. Donc parmi toutes ces pistes-là que je vous ai proposées aujourd'hui, je vous fais un petit récapitulatif, j'ai pas noté, donc je vais essayer de le faire de mémoire, c'est que ce que je peux apprendre de mes émotions, c'est qu'elles ont une information à me donner sur mon état intérieur, que je ne vais pas souvent creuser parce que je reste en surface, je reste dans le faire. Donc la première chose, c'est que j'ai tout un fonctionnement intérieur que je peux aller découvrir si j'en sens l'envie et si j'ai envie de sortir de cette impression de subir ma vie, de subir mes émotions, d'être un hamster dans sa roue qui n'en finit pas. Donc la première chose que mes émotions peuvent m'apprendre, c'est à aller voir mon fonctionnement personnel, singulier, sur mesure individuelle. Ça, je peux vous aider à le faire, mais je ne peux pas le faire à votre place. Vous avez un fonctionnement complètement unique. La deuxième chose que vos émotions peuvent vous apprendre, c'est à voir le monde de manière responsabilisante, pour vous comme pour les autres, faire la part entre ce qui est de votre sort et ce qui est de l'impermanence du monde et de la responsabilité de chacun, arrêter de vouloir prendre en charge les émotions des gens et leurs besoins, faites déjà cette part à vous, parce que quand on a la clarté sur ce qui est de mon côté de la colline et ce qui est de l'autre côté de la colline, eh ben on se libère de l'énergie et du temps. On a beaucoup plus d'énergie et de temps si on fait la part des choses dans ce fonctionnement-là. La troisième leçon qu'on peut avoir de nos émotions, c'est que plus je vais comprendre mon système émotionnel à moi, plus ma relation à l'autre, donc mon enfant, mon mari, ma belle-mère, mon patron, ma mère, va être différente. je peux apprendre à relationner plus calmement parce que je connais mon fonctionnement. Je sais ce qui me déclenche. Je sais dans quel état je vais être si je reste au contact de tel type de personne pendant plus de 3 heures. Parce que vous connaissez votre tolérance au bruit. Vous connaissez votre tolérance aux jurons, aux ambiances un petit peu... Là, j'ai l'image de la Coupe du Monde du rugby qui me vient. Il y a des gens qui sont absolument à leur aise, à leur avantage, dans la foule, dans le bruit, dans le monde, dans la co-création, dans la festivité. Et d'autres, pas du tout. D'autres qui ont besoin de se ressourcer, de silence, de calme, de solitude. Et ni l'un ni l'autre n'est mieux, ni l'un ni l'autre n'est mal. C'est juste, est-ce que vous savez votre degré de saturation quand vous avez débordé des sollicitations extérieures? Ça nous apprend aussi à savoir où est ma limite. Quelles sont mes limites? Et savoir où sont mes limites me permet de les exprimer aux autres pour éviter à nouveau de leur reprocher mon état à moi. Donc l'émotion m'aide à relationner avec les autres, l'émotion m'aide à m'exprimer. Si j'ai fait le tour de mon émotion, je saurai quoi faire comme demande. Je saurai faire une proposition gagnant-gagnant. Je saurai aussi écouter l'autre dans ses émotions. Et la dernière chose que mon émotion m'apprend, c'est que plus je vais vieillir, avancer en âge, plus je vais prendre en charge mes émotions, et plus je vais être un modèle pour la génération d'après. Moi, je suis dans des valeurs de transmission, de douceur et d'intégrité. Ça me paraît normal de prendre à ma charge mes émotions, d'aider les autres à faire de même, à éviter de contaminer sur la génération d'après en les rendant responsables de leur frustration d'adulte. Et il y a beaucoup de travaux autour de ça. Je vous engage à lire notamment Alice Miller qui a fait beaucoup de livres à propos de ça, la dette émotionnelle qu'on crée avec la génération d'après quand on n'a pas été voir nous-mêmes ce qu'on a été activé en fait quand on était enfant nous-mêmes. Si vous avez eu des parents qui vous ont dit « Non mais avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu devrais au moins, avec tout ce que j'ai fait, qui sont dans une recherche d'équilibre, mais a posteriori, une fois qu'on est adulte. Ce n'est pas logique. Si on élève nos enfants, si on leur donne des clés pour plus tard, on peut prendre à notre charge l'inconfort et la déception qu'ils ne fassent pas comme on leur a transmis. Parce que leur rayure d'autonomie et de liberté, leur rayure verte, elle est fondamentale aussi pour eux. J'aurais beau mettre en place plein de choses sur l'éducation émotionnelle avec mes filles, elles seront libres de l'appliquer ou non. Elles seront libres d'aller à contrario, à l'extrême, de faire différemment ou pas. Mais moi, ce que j'aurais appris là-dessus, c'est à transmettre tout ce que j'ai compris en me disant au moins elles auront cet apport-là. Ce qu'elles en feront sera de leur liberté. Et je reboucle avec les parents qui viennent me voir en disant « Tu peux m'aider à faire obéir mes enfants ?» Je ne ferai jamais obéir un enfant, puisque pour moi, obéir, c'est lui retirer le libre arbitre et le sens critique qui fait l'éducation en elle-même. Je veux que les enfants puissent comprendre ce qui leur fait du bien, poser des limites, être autonomes et être un citoyen responsable pour les 40 prochaines années. Alors, je ne vais pas les faire obéir. C'est dissonant pour moi. C'est antagoniste. Je ne vais pas faire obéir un enfant, mais je vais prendre conscience de ce que ça provoque chez moi quand un enfant me dit non, quand un enfant ne fait pas ce que je voulais. Oui, là, c'est une flamme qui gratte, c'est une flamme qui me dérange. Qu'est-ce que ça dit de moi? Ça dit de moi que j'avais envie de ce résultat, que c'était plus facile pour moi si l'enfant avait obéi. Et à nouveau, cette émotion m'apprend des choses sur ce que j'attendais, m'apprend des choses sur ma vision de la vie, sur la croyance que j'ai sur l'éducation, que les enfants doivent obéir. Les enfants, pour moi, ne doivent pas obéir. Les enfants doivent comprendre pourquoi la règle est ce qu'elle est, quel intérêt il a à suivre la règle, et quelles sont les conséquences si jamais il ne suivait pas la règle. Parce que je ne suis pas toute puissante. C'est pas moi qui vais être la référence ultime à la loi. Je peux me référer à la loi, puisque moi-même, je suis la loi. Je la suis en tant que suiveuse. C'est pas moi qui l'incarne. Je délègue un petit peu la loi parce que je suis figure d'autorité quand je suis maîtresse, quand je suis enseignante, quand je suis maman. Mais mon enfant, quand je ne serai plus là, il aura aussi à répondre devant la loi. Et ça, quand je ne serai plus là, qui va le faire obéir ? Vous voyez bien qu'il y a des gens qui ne respectent aucune loi, qui vont contre la loi. Et le côté punitif, le côté carcéral, le côté réinsertion a encore beaucoup de choses à apprendre de ces pédagogies où on met du sens sur la règle au lieu de punir. C'est tout le dossier là qu'on est en train de faire avec les clientes dans Zenflix. On est en train de travailler sur les conséquences des punitions dans l'éducation et comment faire autrement que faire obéir, dominer et crier. Mais c'est tellement intéressant de voir que même ce thème d'autorité qui paraît éloigné hein, du système émotionnel, je le raccroche à si je veux que mon enfant obéisse, c'est que je nie son état émotionnel, sa cheminée à lui et ses besoins à lui. Je ne vais pas non plus tout lui passer, tout lui laisser faire, tout lui laisser dire, mais je dois prendre en considération aussi bien son émotion d'enfant que l'état dans lequel moi ça me met quand il me dit non, quand il me jette un objet à la tête, quand il refuse de dire ce ou de faire ce que j'attendais de lui. Et je peux donc apprendre aussi bien des miennes, d'émotions, que de toutes les émotions que je vois sur mon enfant, sur mon ado, sur mon mari. Ce soir, quand vous croiserez votre enfant ou votre partenaire de vie, en l'observant, vous allez pouvoir faire des hypothèses sur ce qu'il vit, sur ce qu'il ressent dans sa cheminée, sans en être sûr. Mais tout ça, c'est à chaque minute une opportunité de discuter et de se connecter sur comment tu te sens, qu'est-ce que tu vis, de quoi tu aurais besoin, quel est ton prochain projet. Est-ce que tu as besoin de mon aide, de mon apport pour mener ce projet? Est-ce que ce serait pas ça la co-création qu'on attend, que ce soit dans un couple, que ce soit dans une famille, que ce soit au travail? Voilà qui je suis, comment je me sens, ce dont j'aurais besoin, quel est mon prochain projet? Et toi, comment tu te sens? Quel est ton prochain projet? Qu'est-ce que tu attends de la vie? Est-ce que je peux t'aider à amener tout ça? Et vous n'allez pas le faire avec 50 personnes. Vous allez le faire avec les personnes qui comptent pour vous. Et vous êtes une des premières personnes à compter sur vous. Donc faites-le d'abord avec vous. Apprenez déjà de votre système émotionnel ce que votre flamme veut vous dire. Est-ce qu'elle vous emmène vers une idée que vous vous sentez un peu à l'étroit dans ces choix, que les gens décident pour vous? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour décider pour vous? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour retrouver de l'expression ou de la créativité, ou trouver une personne qui vous écoute, parce que là, vous vous sentez que personne ne vous écoute. C'est à vous de choisir quelles sont les stratégies que vous voulez mettre en place. Moi, je peux vous aider à mettre de la clarté dessus, mais après, vous allez l'exprimer aux gens autour de vous, vous allez demander du relais, vous allez vous faire accompagner, ou alors vous allez renoncer. C'est un des avantages aussi, c'est que quand on voit mieux ce que vient nous dire notre émotion, on peut décider que ce n'est pas une priorité. Et quand l'émotion de l'autre commence à nous contaminer, que ce soit notre enfant, notre partenaire de vie, notre patron, on peut aussi décider qu'on n'a pas envie d'y contribuer. Je ne suis pas là pour réguler les émotions des autres. Vous n'êtes pas là pour réguler les émotions de votre mari ou votre enfant, mais vous pouvez apprendre à le faire au moment où vous vous êtes disponible. Une partie de l'éducation, c'est permettre aux autres d'être autonomes sur la régulation émotionnelle. Vous n'allez pas réguler les émotions de tout le monde autour de vous, ce n'est pas votre métier. Moi, c'est une partie de mon métier maintenant, d'apprendre aux gens à les réguler. Mais si vous faisiez ça toute la journée, vous ne vivriez pas votre vie à vous, vos projets à vous, vos émotions à vous. Donc vraiment, un des bénéfices que les clientes me ramènent, notamment celles qui ont fait le parcours émotisène, c'est qu'elles voient beaucoup plus clairement quand une personne autour d'elles essaye de leur attribuer leur émotion essayent de faire porter la responsabilité de leurs besoins sur elles et essayent de quasiment les utiliser comme stratégie pour leur projet à elles. Et les clients disent « Mais j'avais jamais vu ça avant !» Le nombre de fois où on essaye de m'utiliser comme stratégie pour leurs propres besoins à eux et réguler leurs propres émotions à eux, c'est incroyable tout ce qui se passe dans votre journée. Parce que les gens vont essayer. Et si ça marche, tant mieux pour eux. Parce qu'ils auront trouvé une stratégie qui fonctionne. Et du jour où vous allez arrêter d'être la stratégie pour les besoins des autres, ou alors le faire en conscience, hein, avec le consentement, vous allez consciemment être d'accord pour contribuer, pour co-créer le bien-être de quelqu'un autour de vous. Mais ce sera plus à votre détriment. Ce sera plus en train de vous faire de la peine et de vous sentir utilisé, de vous sentir objectisé quasiment. Donc j'espère que vous arrivez à voir un petit peu le réseau que j'ai voulu faire aujourd'hui entre la compréhension de vos cheminées à vous, individuellement, dans l'état de modélisation pour vos enfants à long terme, et aussi dans l'impact que ça peut créer de bien-être, non seulement pour vous, pour votre famille, mais aussi pour toute la sphère relationnelle. Tout ce que je ressens aujourd'hui, plus je le comprends, et plus je vais pouvoir entendre les émotions, les ressentis, les besoins de quelqu'un d'autre, et si j'en ai envie, si j'en ai l'élan, de pouvoir l'aider à mon tour, contribuer à mon tour. Mais je ne peux pas le faire si je n'ai pas de clarté sur ce que je vis moi. Quand je vous écoute, quand je vous accompagne, je fais la part des choses entre ce que vous amenez vous dans votre cheminée, comme flamme, comme besoin qui clignote, comme projet, comme braise, comme cicatrice. Et ensuite, on pose tout ça sur la table et on démêle et on voit ce qui est urgent, ce que vous voulez amener et quel est le plan d'action que vous pouvez mettre en place pour atteindre votre objectif. Et à aucun moment, ce n'est mon idée de votre objectif ou mon idée de vos émotions ou mon idée même de vos besoins l'important. L'important, c'est ce que vous voulez vous. Donc je vous apprends à le faire soit en séance individuelle, je vous apprends à le faire aussi dans les offres en ligne, ça peut être un cercle de paroles, un cercle de parents, ou alors dans le grand parcours qui va recommencer. Je vous en touche un tout petit mot pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler. Ce parcours, il est en ligne, vous accédez aux vidéos quand vous voulez, vous les regardez quand vous voulez, il y a des exercices dans les vidéos, et on se retrouve en live, donc deux fois. Il y a aussi un live de bienvenue et puis il y aura un live de bilan où vous pouvez me poser toutes les questions sur les outils, sur les vidéos, sur les slides, sur les documents qui sont dans la formation. Mon intention avec ce programme, c'est que vous soyez autonome dans vos émotions à vous d'adulte et pour que vous puissiez petit à petit l'installer avec la génération d'après, avec vos petits-enfants, avec vos enfants, avec les enfants que vous gardez, parce que j'avais aussi des professionnels de la petite enfance qui viennent travailler ces sujets-là avec moi. Le parcours s'appelle Emotizen. Vous le retrouvez sinon sur Instagram, si vous me rajoutez, ou sur Facebook. C'est 10 semaines, main dans la main, 100% en ligne. Vous n'avez pas besoin de prendre le train, vous n'avez pas besoin d'acheter un livre, vous n'avez pas besoin de payer beaucoup. C'est à peine le prix d'une séance par semaine chez la psy. Et vous allez être complètement autonome au bout des 10 semaines sur vos propres émotions. Vous pouvez en parler autour de vous. Je ne prends pour l'instant que des femmes, mais bien sûr, les vidéos, elles seront accessibles un jour à tout le monde. Mais pour les lives, c'est vrai que c'est assez sécurisant d'être entre mamans. Et si vous voulez travailler, messieurs, avec moi, j'ai des papas avec qui je travaille en individuel pour mettre en place tout ça avec leurs enfants. Et puis, pour démêler, parce que souvent les papas me disent ça, l'éducation qu'ils ont reçue par rapport aux émotions avec l'éducation qu'ils veulent donner et qui est très différente, puisque je vous prends souvent cet exemple-là parce qu'il m'a marqué. Un papa antillais qui a été élevé dès qu'il montrait sa frustration, sa colère, sa tristesse en disant « Non, un homme ne pleure pas, arrête de chouiner, arrête de faire ta colère » et qui s'en prenait un coup de savate ou qui était enfermé dans l'armoire. Quand je l'ai reçu en classe pour ses deux petites filles, qui étaient des jumelles, et que je l'ai entendu dire quand elles font une bêtise, je les enferme dans l'armoire. On a parlé longuement avec ce papa, c'est que l'éducation qu'il a reçue par rapport à ses émotions à lui n'était pas compatible avec ce qu'il comprenait d'une émotion pour ses enfants. Il a reproduit le schéma qu'il a vécu lui-même. Et ça demande de s'extraire, hein. Souvent je vous donne l'image du phare, ça demande à chaque père de monter en haut du phare et de se dire « qu'est-ce que j'ai vécu comme punition ? Qu'est-ce qu'on m'a dit sur mes émotions ? Comment je peux retravailler mon rapport aux émotions pour ne plus les subir et pour les apprendre à mes enfants, pour les transmettre de manière douce, de manière calme, sans croire que si mon enfant me tire la langue, je dois lui en coller une pour me faire obéir. » Et la démarche est un peu différente avec les hommes, mais j'adore ce travail-là. Donc franchement, si vous écoutez et que vous êtes un papa qui veut avancer sur ces positions d'autorité, ce rapport aux punitions, ce rapport aux violences, pourquoi on a envie de taper notre enfant parce que nous, on a souvent vécu de la violence éducative quand on était enfant, ça, on le traverse. Il y a beaucoup d'outils. Donc là, vous avez entendu aujourd'hui la cheminée des émotions, l'arc-en-ciel de besoin. Je travaille avec vous sur le bocal à deuil aussi. Allez revisiter le crash test des pensées. Allez éclater tout ce qu'on se raconte sur un parent, ça devrait faire ça. Un enfant, ça devrait faire ça. La norme sociale, la norme sociétale autour de l'éducation d'un enfant de 2 ans est fausse. Il y a tout à déconstruire. J'ai eu la chance de faire ça en 2015 quand on m'a confié le dispositif des moins de 3 ans. Et ça change complètement de paradigme de voir qu'un enfant de 2 ans ne sert qu'à nourrir ses besoins parce qu'à 2 ans, il n'est pas encore câblé au niveau des neurones et de l'intellect pour être facilement compréhensible. Mais par contre, c'est tellement logique. Tout ce que votre enfant fait a un sens et a une logique. Mais si on n'a pas appris à déconstruire nos réactions d'autorité, de domination, de punition, on a du mal à éduquer nos enfants dans la bienveillance, dans l'empathie. Donc c'est tout mon travail maintenant, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous soyez un professionnel de la petite enfance, on travaille ensemble main dans la main, je vous guide vers l'utilisation de ces outils qui a changé ma carrière et qui a changé ma relation en famille aussi et ma relation professionnelle puisque chaque personne que je rencontre, je fais bien la part des choses maintenant entre ce qu'elle vit, ce que je me raconte qu'elle vit, ce qu'elle a besoin, ce que je me raconte qu'elle a besoin, etc. Je vous donne rendez-vous dans le parcours Emotizen si vous en avez l'élan. Retrouvez toutes les infos soit sur le lien, soit sur Instagram ou par mail. Donc ceux qui me suivent sur Instagram vont voir que je vais faire beaucoup plus de live Instagram pour répondre à vos questions. Donc ça peut être l'occasion de me rajouter aussi sur Instagram pour continuer la discussion là-bas. En 4 mots, je te donne ce qu'on s'est dit pendant 1 heure, c'est que nos émotions vont nous apprendre à connaître notre fonctionnement personnel qui n'est pas celui des autres, sur mesure, à mieux l'incarner pour nos enfants, puisqu'on est éducateur ou enseignant ou parent et qu'on a tout intérêt à le modéliser pour nos enfants. Nos émotions nous apprennent aussi à relationner de manière plus horizontale sans être contaminés par ce que les gens nous balancent comme émotions les uns les autres et à ne plus prendre personnellement les émotions des gens autour de nous. Et ce que les émotions nous apprennent également, c'est que on n'a pas le contrôle sur tout le parcours de nos enfants, on n'a même pas le contrôle sur tout ce qui va nous arriver à nous, mais au fur et à mesure de notre journée, plus je sais mon état intérieur, l'état de mes rayures et mes projets en cours, plus je vais soit poser des limites, soit être très productif parce que mon focus et mon énergie sera bien utilisé. Donc plus je connais les émotions, les miennes, celles de mes enfants, plus je vais poser des actions cohérentes, aller directement vers l'objectif que je vise, ne plus m'éparpiller, me disperser et me laisser happer par les besoins des gens autour de moi qui, eux, ont tout intérêt hein, à ce que j'aille dans leur sens et à être une sorte de stratégie pour eux, pour nourrir leurs besoins à eux, alors que vous avez tous votre vie à mener, vous. Et plus vous allez connaître votre état émotionnel, plus vous pourrez cocher vos projets personnels sans vous distraire, happer, contaminer et sans remettre en question systématiquement tout ce que les gens vous disent sur vous. Ils n'en savent rien, ils sont sur leur colline. Vous êtes les seuls à avoir de la clarté sur ce qui se passe à l'intérieur de votre système émotionnel. Donc, soit vous prenez les outils que je vous propose sur les petits plus zen, ou vous trouvez d'autres stratégies, mais je vous invite à aller creuser ce que vous ressentez aujourd'hui a un impact décisif sur ce que vous allez faire aujourd'hui, demain, dans votre éducation à vos enfants et aussi sur vos projets personnels, culturels, associatifs. C'est une clé, c'est une boussole. Plus je vais mettre de clarté sur ces émotions et ce système émotionnel, plus je me sentirai libre, bien et peut-être puissant si c'est un de vos projets, ou retraité si c'est un de vos projets, ou riche si c'est un de vos projets. Selon le projet que vous voulez mener, les émotions vont être un support, vont être un bagage, vont être une boussole au jour le jour. J'espère que cette intervention vous a amené quelques clés. Et puis rendez-vous sur Instagram pour en savoir plus sur le reste. Au revoir.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite!